Chapitre 5. Le frère Hildebert. Pendant ce temps, le père Gilles, lui, parvenait à la ville en pleine nuit, sans pouvoir seulement s'en faire ouvrir les portes. Il coucha à la Belle Étoile, proche du vieux pont-levis, en compagnie d'une racaille composée de malandrins ou de figures suspectes que le guet repoussait hors des murs à la tombée du jour. Il avisa parmi cette gente un vieillard qui paraissait plus pauvre que malhonnête. À vrai dire, ce bonhomme était contrefait et peu ragoûtant, mais il s'exprimait bien. Mieux que cela, il agrémentait son langage aisé de mots et de proverbes latins. Nul doute qu'il fût d'église. En effet, avant de rien répondre aux questions du bûcheron, il raconta sa propre histoire. Il se nommait frère Hildebert, ex-religieux prémontré. Il avait été mal vu au couvent, sous le prétexte qu'il s'adonnait aux sciences profanes, et avait fait des découvertes propres, affirmait-il, à mettre l'univers sans dessus-dessous. Il disait, sans se faire comprendre, bien entendu, de personne, « Il y aura du nouveau, non dans le sens de l'esprit, lequel a atteint ses fins, mais dans celui de la matière, qui corrompra l'esprit des hommes. » « Est-ce que vous pourriez lire ma lettre ?» lui demanda le bûcheron. Mais l'ex-frère Hildebert reprenait. « On a bien fait de me chasser du couvent. Donc je crois fermement au diable, mais j'étais possédé de cet infernal génie qui, ayant une fois mis les molécules en mouvement, les dompte et les dirige, de façon à donner à la matière brute une sorte d'apparente dignité supérieure à l'âme, laquelle est seule digne aux yeux de Dieu. Je suis bien impatient d'avoir, soupirait Gilles, d'avoir des nouvelles de mes filles. J'inventais, dit l'ancien moine. Oh, j'étais vraiment sur un beau chemin. Mais la nuit est-elle vraiment trop sombre, suppliait le malheureux Gilles, pour que vous puissiez me rendre le service de jeter les yeux sur ce billet? Et il lui tendait le papier sous le nez. Frère Hildebert reprit. Bon, le fait est que ce serait pas l'instant de chercher une puce entre deux draps pour celui moins qui a reçu du ciel la faveur de coucher dans un lit. Se disant, il se frotta par trois fois l'ongle du pouce contre le fond de sa culotte, et l'approchant ensuite du papier, les caractères y furent visibles comme si on eût promené alentour trois vers luisants. Et couramment, il lut « Cher papa et chère maman, soyez bien tranquilles à la maison, nous partons pour un grand voyage. Le moment en est venu puisque nous savons lire et écrire Gilette et Gilonne. » Le pauvre bûcheron était fort ému, et le plaisir de recevoir un mot de ses filles l'aveugla à long moment sur la manière stupéfiante dont le moine avait eu raison des ténèbres. Mais comme celui-ci recommençait de parler, Gilles lui dit « C'est une de vos inventions de vous servir de l'ongle comme chandelle ?»« Peu, fit Hildebert avec dédain, ceci n'est rien. » Si l'on m'avait laissé faire, vous seriez riche à l'heure qu'il est. Riche, oh non, ce n'est pas cela. D'autres que moi se seraient enrichis, oui, mais c'était le plaisir. Je vous dis qu'il a été inspiré du Très-Haut, le supérieur qui m'a brisé mes ustensiles et jeté à la porte du couvent. Cependant, voyez, vous venez de me rendre un fier service avec votre petite trouvaille. Il n'est de service que d'apprendre à l'homme à se servir de sa pensée. S'il vous plaît, dit Gilles. Mais l'ancien moine était déjà repris par sa démangeaison de parler, fût solitairement, et il disait « Oui, monsieur, dirigez sa pensée, et dans l'ordre spirituel, car pour ce qui est de l'autre partie de la création, limon et fange, c'est pas savoir. La pensée y met le feu, elle en fait surgir des volcans, et ce qui est pire, Elle se suicidera. Le bûcheron, tranquillisé sur ses filles, commençait de somnoler malgré la commodité du lieu. « Y aura du nouveau !» poursuivait le moine. « Ah, fiche, oui, on aura, mais du côté du limon et de la boue. Et savez-vous, monsieur, ce qu'il y aura de plus fort parmi les nouveautés ? C'est que l'esprit issu de Dieu, l'esprit complètement dévoyé, et à l'imitation des prodiges qu'il aura fait accomplir à la manière, voudra faire lui-même l'histrion, le pitre sur la place publique, prendra pour tour de force ce qui n'est que signe de son aberration. Oui, monsieur, il singera la matière. Quel abaissement, quel sacrilège! Et comme elle, il voudra aller partout en même temps. Et tandis qu'à notre époque, comme vous devez le savoir, monsieur Pascal s'effraie en sa chambre du vide des espaces infinis. Lui, devenu ivre, prétendra sans effroi à aucun pérégriner d'astre en astre, confondant la pensée qui fut l'honneur de l'homme, avec la locomotion que je n'hésite pas à le prophétiser, marquera sa décrépitude. M'entendez-vous, monsieur ? Le bûcheron ronflait à poing fermé. Mais n'attribuant pas ce bruit à son interlocuteur, le moine allait pousser son raisonnement plus avant, lorsque quelques ruffians que désobligeait une si abondante parole s'approcha de l'orateur nocturne et lui administra un violent coup de poing en pleine mâchoire. Rompu à la misère et aux inconvénients de la promiscuité, le défroqué se toucha seulement les articulations et, constatant que rien d'essentiel n'était brisé en son squelette, il alla un peu plus loin et baissa la voix, persuadé que le père des deux filles voyageuses le suivait. « Si je croyais au diable, monsieur, dit-il, je serais porté à penser que Dieu, fatigué de gouverner le monde, a passé la main au prince des ténèbres, que celui-ci m'a fait l'incertain honneur d'habiter dans ma cellule et sous le crâne que voici. La tentation subie par l'esprit ailé et lumineux de s'appliquer à fabriquer 1000 jouets puérils au moyen de cette boue qui n'est que fumier a quelque chose de comparable à l'attrait que vous savez fort vif, et qui jette un sexe sur l'autre. Je pressens une frénésie, une véritable débauche aux noces de l'esprit et de la matière qui, comme tous les excès de ce genre, ne saurait aboutir qu'à un lendemain chargé d'opprobre. » Il parla jusqu'au petit jour et ne s'aperçut pas qu'il avait prêché dans le désert. L'aube lui montra ses compagnons d'infortune étendus à 20 pas de lui, sur la pente du fossé de ville garni de tessons, de légumes avariés et de détritus de toutes sortes. Il ne se plaignait que d'une chose en son abjection, c'était de ne trouver que trop rarement à qui parler. « Les hommes affectent tous, disait-il, de savoir d'avance les sujets que l'on s'apprête à traiter devant eux. Ils n'admettent pas qu'on leur puisse apprendre quoi que ce soit, hormis une nouvelle aussi vaine que celle-ci, un tel a été fait cocu, ou bien le Turc est entré en campagne. Et pendant que vous leur adressez la parole, ils ruminent ce qu'ils vont vous dire à leur tour, et qui pourra être de nature à vous asseoir sur votre séant. » Or, le bûcheron avait manifesté une relative complaisance. Il le retrouva quand le jour fut venu. Gilles, qui avait dû savoir vivre, invita le moine serviable à venir avec lui prendre un vin blanc à la ville. Et ils causèrent encore. Pendant qu'ils étaient attablés, Gilles reconnut le jeune et charmant Loïs, le fils du conseiller Périnel, qui se rendait à un office matinal. Il courut à ce garçon savant, car il avait hâte d'avoir confirmation du sens prêté par le bavard défroqué à la lettre de ses filles. Loïs lui lut, à la lumière du soleil, le texte même qu'avait lu le moine à la lueur magique de son ongle, et il ajouta avec intérêt « Ah, elles sont parties pour un grand voyage ? Avec les dames, répéta Gilles, qui avait vu jadis au pavillon le fils du conseiller Périnel prenant sa leçon de musique. Chut, chut, fit celui-ci en portant l'index à la bouche. Vos filles sont gracieuses, maître Gilles, et elles sauront des choses que je ne sais point. Mon père me juge assez savant, il dit là-dessus que trop, très trop. Bien le bonjour à mesdemoiselles vos filles, maître Gilles. Ah oui, elles sont parties. Diable, elles en ont de la chance. Et il s'éloigna sur son beau cheval bai. Quand Gilles fut de retour à l'auberge, Gilles de Berre lui dit « Vous connaissez de beau monde, ah, voilà un jeune homme qui a été arrêté à temps. Il était en bonne voie pour rater l'affaire de son salut. Par quoi, me direz-vous, fut-il éduqué, vu toutes les sciences qu'il a apprises? Ne me le demandez pas. Ce serait à croire, monsieur, que malgré ma cervelle infernale, il y a quelqu'un de plus fort que moi, et que j'ai été devancé. » Il réfléchit en vidant son verre et il frappa le genou de son compagnon. Le diable, monsieur, tout compte fait, je suis pas sûr d'y pas y croire. Et s'il existe, savez-vous où il est? Il est partout. Hildebert accompagna Gilles une demi-lieue sur le chemin de retour, en entretenant de sujets où l'homme simple n'entendait rien. Sur le point de le quitter, il lui dit « Savez-vous ce que je voudrais à l'heure qu'il est ?»« Ben, être à cheval plutôt qu'à pied, » dit le bûcheron. « Non, dire ma messe en simplicité, comme tant de frères que j'ai connus. C'est un sort maudit que celui qui m'a fait plus intelligent que les autres. Ou bien, savez-vous à défaut de dire ma messe ce que je voudrais ?»« Être attendu à déjeuner ?» Chez madame la duchesse, je parie. Être un bûcheron comme vous, vivant dans la forêt à côté de sa femme. Pour le coup, le père Gilles éclata de rire. Ce souhait-là, par exemple, non, il n'était pas croyable. Parlons sérieusement, dit-il en se rapprochant du moine. Dans le nombre de vos petites inventions, dites-moi, vous n'auriez pas par hasard... Vous n'auriez pas... Et quoi donc, dit le moine, le secret de la vie heureuse, je vous l'ai donné. C'est la pure simplicité de l'âme ou le développement de l'esprit pour l'esprit. Non, dit le bûcheron, je voudrais trouver le moyen d'aller de chez moi à la ville sans débourser ni user mes vieux membres. Et aussi, ben, vous allez hausser les épaules. Oh, dites donc toujours, je ne peux rien. Vous n'auriez pas par hasard trouvé le moyen de transformer une cabane de bûcheron en un palais cossu, avec carrosse et domestique ? L'ancien moine s'en alla sans répondre, hochant la tête, et en lui-même il pensait. J'ai cru parler toute la nuit à un homme, et celui-là, comme les autres, est bon pour le règne du démon, qui distribuera des joujoux confectionnés avec le limon de la terre. Chapitre 6 La correspondance. Et Gilles s'en revenait tout regaillardi, parce qu'il s'était donné beaucoup de mal, avait passé la nuit dehors, avait causé ou cru causer avec quelqu'un, ce qui revient exactement au même, et parce que aussi, ayant grand besoin d'être consolé, il avait ajouté foi volontiers au témoignage de la lettre déchiffrée. Mais sa femme ne s'en laissait point compter de la sorte, et il eut beau affirmer que le frère Hildebert s'était trouvé pleinement d'accord avec le fils du conseiller Périnel sur le sens de la lettre, la mère Gilles lui jeta au nez qu'il n'était qu'un vieux sot, depuis longtemps crédule à toutes les billevesées, et qui s'en allait à présent croire à un mot écrit trouvé dans la poêle à frire. Quant à elle, non. Ses filles avaient été enlevées, bien enlevées, par deux vieilles sorcières qui ne lui avaient jamais rien dit de bon. La faute en était à l'insanité et à l'orgueil du père, infatué de toute nouveauté et n'ayant à cœur que de faire de filles de bûcherons des princesses. La mère Gilles n'admettait aucune consolation. Elle ne croyait à nulle chose, hormis à celle que lui dictait son sens commun. Il pouvait tomber du papier dans la poêle ou dans la soupière, et n'en estimerait pas moins ses filles, plus sûrement inexistantes, que si elles étaient mortes de maladie, car dans ce cas, au moins, elles les auraient au lieu où vont les chrétiens et les honnêtes gens, tandis que nonobstant dans toutes les belles écritures, elle estimait ses filles perdues quant à leurs âmes par le fait du regrettable marché conclu dans les pavillons de malheur. Le bûcheron, ayant subi cette algarade, s'enfuit à son travail, l'échine courbée, car il était à présent plus troublé par l'opinion de sa bourgeoise qu'il ne l'avait été par le langage abondant de frère Hildebert. Après qu'un assez long temps se fut écoulé, une lettre en tout point semblable à la première, du moins en apparence, se trouva non dans la poêle en vérité, mais dans aucun lieu, ni dans aucun lieu propre à faire croire à un pouvoir magique, mais là, tout simplement, sur la table, entre la miche de pain et le fromage. La mère Gilles haussa les épaules et déclara qu'au jour d'aujourd'hui, ses deux filles entreraient par la porte, comme tout le monde, et qu'elle ne croirait point les voir, et ne leur ferait nul bon accueil. Elle en fut quitte pour son affirmation de principe, car son mari, lui, sans prendre la peine de l'entendre, courait à la ville afin d'avoir lecture de la nouvelle missive. Et sa femme lui criait « Mais tu vas arriver là-bas de nuit, vieux fou, comme l'autre fois, et tu coucheras encore dehors avec des porteurs de vermine. » Mais Gilles était déjà loin, et arriver de nuit ne l'effrayait pas, pourvu qu'il rencontrât encore frère Hildebert. Et en effet, il arriva de nuit, passé le couvre-feu, et trouva porte close. Mais parmi les cent logis, coureurs de grands chemins et gibiers de potence qu'il côtoyait, il ne rencontra point son prémontré. Et comme il s'informait de l'ancien religieux, on lui rit au nez. Hildebert, il était en prison. La nouvelle n'était pas de celles qui confondent la raison. Mais Gilles, ayant demandé le motif qui avait valu au vieillard cette disgrâce, il lui fut répondu qu'il n'y avait pas à se mettre en peine de l'individu. Oh, il saurait bien se tirer d'affaire, étant homme à rompre les barreaux de sa geôle par un seul geste du petit doigt. « Mais qu'a-t-il donc fait ?» demanda Gilles. « Mais il est dangereux, » dit un cheminot. « Mais encore ?» Ben, il se met à présent à guérir les convulsions et les rages de dents. J'y vois point de mal, dit le bûcheron. Ben, sans doute, si pour cela il employait des moyens ordinaires. Alors Gilles se souvint que le moine avouait qu'il était atteint du mal d'invention. Il pratique les maléfices, lui fut-il dit. Le père Gilles allait en oublier sa lettre. Il eut aussi bien fait, car s'il se trouvait là un quidam qui se déclarait capable de lire son pater, du moins ne le pouvait-il faire à la nuit noire. Et Gilles pesta jusqu'au petit jour, n'étant pas endormi cette fois par des propos disers et philosophiques. Mais au matin, il ne se sentit aucune confiance en celui de ses compagnons qui prétendait savoir lire son pater, et il entra dans la ville afin de s'y informer en premier lieu du moine prisonnier. Ayant su que le savant homme était enfermé au Châtelet, il s'y rendit et il parvint à être admis dans une cour infecte sur laquelle donnait une étroite fenêtre grillée. Gilles se mit en quête d'une grosse pierre afin de se hisser jusqu'à la grille, de se faire reconnaître du prisonnier, et d'autre part d'être bien sûr que c'était à lui et à nul autre qu'il avait affaire. Ainsi juché, il cria « Ouais, est-ce bien vous, frère Hildebert ?» Et il vit en effet s'approcher des barreaux la bonne tête aux yeux vifs de frère Hildebert. Alors, comme signe de reconnaissance, il lui tendit la lettre dont il désirait connaître le contenu, avant même de demander des nouvelles de l'infortuné. Mais celui-ci, qui de son côté était plus pressé de parler de lui-même que de tout autre sujet, lui disait « Eh bien oui, ben voilà un couvert. Ils ont bien fait, ajouta-t-il, car j'étais repris par mon péché. » L'autre avait oublié le péché qui avait valu au religieux d'être expulsé de son couvent. « Mon péché !» Ben oui, mon goût immodéré pour la damnée chose matérielle. Ne me mettais-je pas tout de bon à faire des miracles? Notre Seigneur en a fait. Oh, lui, c'était pour donner classe à toute puissance, tandis que moi, c'est par amour de l'art. Je n'ai que ce que je mérite. Mais votre science ne peut-elle pas vous aider à sortir de ce trou? Le ciel m'en garde, dit l'ancien moine. Je suis trop heureux aussi, tôt libre et en présence des choses admirables de la nature, dont j'ai envie de changer toutes les combinaisons. Oh, c'est dégoûtant d'être ainsi fait. La pénitence m'est nécessaire. Songez que même ici, où je ne vois que l'eau de ma cruche, je suis tenté d'utiliser ce liquide innocent que je me souviens d'avoir vu bouillir autrefois, oui, de l'utiliser à des choses dont il vaut mieux ne pas parler. Ma cervelle, monsieur, est comme un mou qui fermente, et au lieu de tourner à l'amélioration des hommes, ce satané génie ne cherche qu'à jouer de la matière. « Pourriez-vous me lire cette lettre ?» demanda Gilles. « C'est qu'il y en a long, cette fois. Ben, « je crois bien, dit frère Hildebert. Ce sont deux lettres et non pas une. Elles ne sont pas de même écriture. Ben, souvenez-vous que j'ai deux filles bessonnes et qui savent lire et écrire. Voilà, dit le moine prisonnier. Cher papa et chère maman, nous sommes arrivés dans un pays où la température est exquise et où tout ce qu'on voit est propre à nous ravir. Il y a un fleuve dont les eaux ne sont ni bleues ni vertes comme chez nous, mais plutôt de la couleur d'un beau soleil qui se couche. On voit chaque soir des feux d'artifice, chose plus belle que nature. Figurez-vous que toute la forêt brûle, oui, mais pendant des semaines de suite. Nous venons d'assister à un splendide défilé de gendarmes à la tête desquels, dit-on, était le roi. Ces grandes fêtes vont finir. C'est bien malheureux, mais certaines gens prétendent que l'on nous réserve des surprises et que l'on verra mieux encore. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai du goût pour le voyage. On ne peut rien imaginer de plus amusant. Ces dames sont excellentes. Elles nous aiment, ma sœur et moi, comme elles s'aiment mutuellement. Votre fille obéissante et dévouée, Gilette. « Mais ne s'embête pas, vos filles, dit le moine. Mais où sont-elles ?»« Oh, pour Gilette, elle est dans un beau pays où l'on voit de belles choses, et le nom lui importe peu. »« Voyons l'autre, dit frère Hildebert. »« Mes chers parents, tout d'abord j'ai idée que vous ne devez pas être contents de nous, peut-être car notre départ a été brusque. Et c'est une singulière manière d'agir pour des filles que de s'en aller ainsi en si long voyage sans avoir l'assentiment ni de son père ni de sa mère. Mais il paraît qu'il n'y avait pas à tergiverser, que d'abord, quand on fait son éducation, il la faut faire complète, qu'une bonne éducation comporte de longs voyages, qu'enfin, pour ces voyages, le vent était tel qu'il fallait et il ne l'aurait sans doute plus jamais été. Si je m'expliquais plus clairement, je vous livrerais le secret de la manière dont nous voyageons, mais ce n'est pas possible. Sachez seulement que si je vous ai parlé du vent, ce n'est pas l'étourdi et que nous voyageons sans toucher terre, et cependant non par eau. Oh, ce n'est pas sans inconvénient. Quelques-uns nous prennent pour des oiseaux et nous envient, mais quelques-uns aussi nous tirent dessus avec leurs mousquets, et il faut recourir à des manœuvres pour échapper au danger. D'autrefois, la grande difficulté est de savoir où se poser, car tous les endroits ne sont pas bons et fort peu offrent la sécurité. Il ne m'est pas permis de vous dire où nous sommes, car être ici paraîtrait chez vous invraisemblable, et nous risquerions de nous faire condamner au bûcher lorsque nous retournerions au pays. La nation qui nous abrite est en guerre avec deux de ses voisines. Il y en a eu d'horribles batailles. Le sang coule à ce point que le fleuve qui roule des cadavres n'est composé lui-même à peu près que du liquide répandu par les blessures sans nombre. On tire ici à l'aide d'une artillerie bien plus perfectionnée que la nôtre et qui enflamme tout l'horizon. On nous a menés naturellement dans le pays destiné à être victorieux, parce qu'on y court relativement moins de périls, et nous avons vu tantôt défiler des troupes du général vainqueur. Elles étaient très abîmées, mais les hommes sont partout courageux. C'est même, je vous dirais, la seule chose louable que j'ai reconnue, car pour ce qui est du reste, mieux vaut demeurer au fond de notre forêt. Je me demande même pourquoi l'on cherche à voir ou à prendre temps, alors que la plus grande partie de ce qu'on voit est à vous détourner d'en voir davantage. Il y a toutefois une chose drôle, c'est d'entendre se disputer Madame je ne sais qui et Madame à qui est-elle. Je n'ai jamais rien rencontré de plus comique, et cela console de beaucoup d'incommodité. Elles ne sont jamais d'accord. Elles se chamaillent comme deux poules. L'une appelle blanc ce qui est noir et l'autre noir ce qui est blanc. Madame je ne sais qui pousse l'aménité jusqu'à trouver parfaites les opinions de sa sœur, qui sont exactement contraires aux siennes, mais cela révolte l'aînée. Celle-ci dit alors à sa cadette tant de mal de ses opinions et des gens défendus par elle, que l'autre qui veut que ces gens tous parfaits et leur opinion toute bonne, finit par les défendre avec une impétuosité héroïque ou bien se montre accablé par le chagrin quand on lui démontre qu'il y a des créatures mauvaises. Et le rire nous en prend à toutes, même à l'accusatrice et même à Gilette, qui, comme il convient, est toujours de l'avis de sa maîtresse. De sorte que c'est de nos propres mots que nous tirons et notre remède et notre principal agrément. Et que, souvent, de nous rendre compte que nous sommes insupportables, nous amène à nous supporter. Ma maîtresse m'a dit que, lorsqu'on sait beaucoup, le principal résultat est de se trouver d'un avis opposé à celui des autres, et fréquemment au sien propre. Elle dit que savoir engendre forcément discussion, doute et incrédulité. Alors, pourquoi apprenons-nous ? Lui ai-je demandé. Et elle m'a répondu, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. À l'heure où je vous écris, le peuple victorieux n'est pas content, parce qu'il pense avec raison que le vaincu voudra être vainqueur demain. Alors, il est question que les vainqueurs d'aujourd'hui se mangent les uns les autres en attendant qu'ils soient vaincus. Nos maîtresses ont décidé que nous avions vu ici assez de choses instructives. Pour une fois, elles sont tombées d'accord et nous repartons vers un pays nouveau. On s'est bien commode. Voilà, mes chers parents. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je crains que vous n'ayez déjà de la peine à vous faire lire cela. De vos nouvelles qui nous manquent, mon Dieu, nous ne nous mettons point trop en peine, car nous savons que notre vie est régulière et monotone, et ce qui s'appelle heureuse. Je vous embrasse tendrement, Gilonne. L'ancien prémontré retenait les deux lettres dans sa main tremblante. « Ça vous fatigue de lire ?» demanda Gilles. « Non, ce n'est pas cela, » dit le prisonnier. « Mais je vois par cette lettre qu'ils ont tout découvert. »«
Quoi ?»«
Ils ont découvert ce que je cherchais. »
Vous cherchiez à m'enlever mes filles ?
Non, mais à voyager.
Et il répéta, oh, voyager. Son œil de rêveur se fixa au loin,
et il voyait sans doute de fantastiques moyens de transport, et le globe entier roulant sous ses pieds comme une boule. Aussitôt, il fit son signe de croix et s'agenouilla dans le cachot. Il demandait pardon à Dieu d'une concupiscence excessive et qu'il jugeait criminelle. À peine réapparu à la fenêtre grillée, il dit à Gilles « Ce n'est pas tout ça, mon bonhomme. Il faut que vous teniez ces lettres soigneusement secrètes. Je ne veux pas manquer de donner à ma femme des nouvelles de ses filles. Et comment tiendrais-je ma langue vis-à-vis des amis qui croient que mes deux petites ont mal tourné ?»« En ce cas, vous êtes perdu, » dit frère Hildebert. « Comment cela ?» Votre fille prend la précaution de vous en avertir elle-même. Je vous vois cuit et rôti avant moi, vous et votre progéniture. Ignorez-vous que toutes ces innovations diaboliques étaient à bon droit mal vues par les gens sages? Voyons, de vous à moi, entre quelles mains sont-elles? Et par quel diable les avez-vous fait éduquer? Il fallut que Gilles racontât tout ce qui était advenu depuis la rencontre de la fée Malice. L'ancien religieux retomba encore une fois à genoux après fort ce signe de croix. Puis il dit « Je ne doute plus de quel seigneur proviennent les imaginations dont je suis assailli. J'en avais le triste pressentiment. On a bien fait de me jeter à la porte du couvent, oui, mais... je veux rentrer en grâce. Je me ferai exorciser. J'irai à Rome à pied, s'il le faut. » Parbleu, vous aimez le voyage, dit Gilles. Oh, vous avez raison, simple homme des bois, fille de mer. Et voyez, jusqu'en mes moments de contrition les plus vives, le malin vient me tendre des pièges. C'est le voyage qui me plaisait, et je gage que pour aller à Rome, j'eusse construit quelque instance inouïe. Moi, dit l'homme des bois, je crois tout bonnement que la prison vous est contraire, et si je pouvais vous tirer de là, oh, n'en faites rien, quand vous connaîtriez les puissants du monde, dit l'ancien moine, car je commettrais le mal encore plus sûrement au dehors qu'au dedans. Mais si la réclusion vous effraie, ne vous exposez pas vous-même à la subir. Vous avez dans votre poche de quoi vous faire monter sur le bûcher. Adieu et merci, frère Hildebert. Portez-vous bien. » Gilles s'en alla à l'auberge où il avait tué le ver lors de son dernier voyage à la ville, en compagnie du défroqué. Il demeurait perplexe et ruminait plusieurs choses à la fois dans sa tête. Il n'était pas assis là depuis un quart d'heure, sous le cep qui tord ses vieux câbles le long de la maison, qu'il vit arriver vers lui, toujours fidèle à l'heure de l'office matinal, le jeune Loïs, le fils de monsieur le conseiller Périnel. À sa grande surprise, cette fois-ci, c'était le fils du conseiller Périnel qui avait l'air de le chercher. Loïs avait mis son beau cheval bai au pas, et il lorgnait attentivement les gens de l'auberge. Il appela en effet Gilles par son nom et lui fit signe de s'approcher. « Avez-vous des nouvelles ?» demanda Loïs. « Et de qui donc ?» fit Gilles stupéfait. « Mais de vos charmantes filles, parbleu, » dit le propre fils du conseiller au Parlement. « Vous savez que je raffole des voyages, quoique je ne sois allé nulle part. » Mais je n'aurais rien autant aimé que d'en faire un, surtout un tel que celui qu'elles font, j'imagine. » Et ce disant, ses yeux quittèrent le monde visible et s'égarèrent un long moment dans l'azur matinal. Comme le religieux tourmenté du démon, ce jeune homme rêvait à des voyages. Puis il poussa un gros soupir et dit « Vous n'avez donc rien à me faire lire ce matin ?» Il n'eut point de peine, ayant été très bien instruit à la fois par les deux dames, c'est-à-dire étant habile à interpréter les choses de la manière la plus favorable et aussi à les juger implacablement, Il n'eut point de peine à démêler, dans l'attitude du père des Besson, un grand embarras. Ah, quelqu'un vous a déjà rendu ce service, je parie. Vous connaissez des clercs, père Gilles?
Des clercs? Oui, non. Si c'était un effet de votre bonté, j'irai vous expliquer cela un peu plus loin des yeux et des oreilles.
Mais venez donc, dit Loïs. Gilles régla son écho et, enrichi de la considération de l'aubergiste et de ses clients à cause des belles relations qu'il avait, il s'en alla, sous un orme, rejoindre le fils du conseiller au Parlement, lequel avait mis, s'il vous plaît, pied à terre. Gilles lui demanda de jurer sur le Saint-Sacrement qu'il ne dévoilerait à qui que ce soit, même en confession, le secret qu'il allait lui confier. Et avant de lui donner à lire ces deux lettres, il lui narra toute l'histoire de l'infortuné frère Hildebert. Le bûcheron, qui était sans malignité et qui croyait ne s'adresser qu'à un puissant personnage capable de faire élargir le prisonnier, ne se doutait pas que le fils du conseiller Périnel, élève des deux dames et versé en toute science dès son jeune âge, mais retiré à temps, selon la parole même du prémontré, portait un intérêt particulier à toutes les choses qui troublaient la cervelle d'Hildebert. Loïs promit d'aller lui-même visiter le prisonnier aussitôt après la messe, et ou de le faire rentrer au couvent, dit-il, ou bien d'y perdre lui-même son latin. L'aventure le toucha si fort qu'il en allait oublier les lettres. Il les lut vite pendant que le premier coup de l'office tintait à l'église métropolitaine. Et il dit à Gilles, « Mais comment avez-vous reçu cela ?» Gilles mit un doigt sur sa bouche. « Vous le direz bien, mais c'est pas croyable. » Le jeune homme, complètement initié aux sciences professées dans les pavillons, s'écria « Peste !» Ses joues s'empourprèrent. Il était avide de merveilles, et l'aventure des filles du bûcheron l'intéressait plus que tout au monde. « Gardons le secret. Toute parole, en effet, pourrait être fatale. » Et il remonta sur son beau cheval bai. Chapitre 7. Le secret. Gilles, de retour à sa cabane, n'eut point de cesse qu'il n'eût raconté à sa femme les moindres détails de son voyage à la ville et du contenu des deux lettres. Il eut une double occasion de s'en repentir. D'abord, la mère Gilles se refusa absolument à rien entendre. Ensuite, elle poursuivit son mari de quolibets, dans la mesure même où il se montrait crédule. Il n'y avait de moment, que ce fût le jour ou bien la nuit, où elle ne trouva le moyen de se gausser de la sottise du bonhomme. Et comme elle ne prenait rien au sérieux de tout ce qu'il avait dit, vous pensez, si elle se priva, devant les amis du dimanche, de narrer les lubies de son époux et les prétendues rencontres singulières qu'il faisait à la ville, sinon avec le fils du conseiller Périnel, car elle avait peur des personnages puissants, du moins avec le moine défroqué. Les bûcherons et leurs familles se trouvèrent divisés en deux clans. Dans le premier, ceux qui prenaient le parti de rire, lesquels laissèrent toutes ces affaires à l'état de plaisanterie. Dans le second, les quinteux, qui avaient pour la plupart une oreille plus basse que l'autre, lesquels commencèrent par ne dire mot, puis amenèrent, le dimanche suivant, certains parents à eux qui étaient tonsurés et à qui l'on fit lire les lettres fameuses arrivées d'un pays fabuleux et tombées entre la miche du pain et le fromage. Il n'en fallut pas plus pour que le pays fût en émoi. Les langues allèrent leur train par la forêt et les villages, et en peu de jours, les faits tels que nous avons rapportés étaient devenus les suivants. Gilles et sa femme avaient primo vendu leur homme au diable. Secondo, livrer leurs deux filles à une troupe de malandrins, faux monnayeurs, que le misérable allait retrouver à la nuit dans les fossés de la ville. Moyennant quoi, tout en simulant qu'ils habitaient un toit de chaume, les époux Gilles avaient fait élever deux pavillons opulents où se célébrait le sabbat et où pullulaient des animaux féroces destinés à dévorer tous les petits-enfants du pays. « Enfin, lui jeta un jour quelqu'un, tu t'enrichis et nous ne le faisons pas. Est-ce un fait, cela, oui ou non ?» C'était un fait, et c'était même le motif de toute l'accusation. Mais Gilles, descendant alors au fond de lui-même, se souvenait que, depuis de longues années, il y avait dans son coffre, à chaque fois qu'il y regardait un petit excédent de recettes, et qu'il avait très vite tenu cet avantage pour légitime et dû à sa personne. Et il lui était arrivé, depuis lors, tant de choses merveilleuses que celle-là lui avait paru la plus ordinaire. Était-elle le résultat d'un pacte? Et ce pacte, est-ce qu'il l'aurait conclu en dormant, ou bien un jour qu'il était ivre? De sorte qu'il était d'autant plus malheureux qu'il se demandait s'il n'était pas coupable. Les amis du dimanche s'écartèrent de la hutte. Mais on voyait certains d'entre eux rôder dans le voisinage, l'œil aux aguets, comme s'ils allaient découvrir quelque monstrueux prodige autour de la demeure du bûcheron, et par exemple l'entrée du diable, connu et couleur de braise, se faufilant à leur place pour manger les rôtis et le pain perdu. Ce qu'ils virent arriver et pénétrer dans la hutte, un beau dimanche à la place du diable, ce furent quatre membres du clergé séculier, suivis de deux jeunes clercs portant l'eau bénite et de plusieurs gens de robes et d'épées. La cabane fut aspergée et les bûcherons interrogés. On visita coins et recoins. On fractura un coffre rempli de pièces d'or. Elles étaient pures, de poids juste et à l'effigie du roi, mais d'une quantité propre à rendre par elle seule suspect un tâcheron à la journée. On trouva aussi les lettres que le père imprudent conservait sur son cœur, et lecture en fut donnée à haute voix. Par là se trouvaient redressées certaines des calomnies répandues sur le compte de Gilles, mais quand il dit naïvement la manière dont ces lettres lui étaient parvenues, on l'appréhenda au col. Et ainsi, maintenu par la poigne vigoureuse des hommes d'armes, Gilles fut sommé de conduire la compagnie au trop fameux pavillon. On en prit le chemin. Le père et la mère Gilles versaient des larmes en commun, mais s'accusaient mutuellement du malheur arrivé. Ils marchèrent durant un temps qui leur parut long, sans rencontrer ni pavillon, ni grille, ni même une pierre, décelant qu'une construction se fût élevée là. Gilles dit « Me trompe pas, voici le soleil, il est 4 heures de relevé, nous sommes bien dans la direction, à moins que j'aie la berlue. » « Tu ne te trompes pas, lui fut-il répondu, mais tu nous trompes. Et il faut nous montrer ces pavillons. » Voici la clairière, dit Gilles. Celui de gauche est ici et celui de droite est là. Mais gauche ou droite, lui fit-il dire, le certain est qu'il n'y a rien. Gilles, se croyant fou, demanda à retourner à la cabane et à revenir sur ses pas. On consentit à le ramener, toujours maintenu à la cabane. Et il revint en comptant ses pas, les yeux bandés. Il s'arrêta exactement au même endroit. Alors on lui dit qu'il était un imposteur et qu'il se moquait des autorités ecclésiastiques, civiles et militaires. Il persista à soutenir que les pavillons s'élevaient là encore la veille au soir, même qu'il avait vu l'herbe envahir les cours, la moussie couvrir les toitures, et des arbustes poussés dans la muraille des chaussées, et qu'il avait dû abattre de la main l'étoile d'araignée tissée entre les barreaux où le chat lui-même ne passait plus. Et comme il persistait en son dire, bien qu'il fût patent aux yeux de tous, et même aux siens, que la clairière était nue, sans pierrail, et même hérissée d'une jolie bruyère rose, Gilles reçut l'ordre, ainsi que sa femme, de suivre l'escorte jusqu'à la ville. Au moment où on allait lui lier les mains, il demanda à ramasser sur le sol herbeux un objet brillant qu'il apercevait. C'était un médaillon de taille à être logé au creux de la main et reproduisant en miniature le grand portrait vu dans la saison de musique le jour mémorable de la visite. À peine le cortège s'était-il ébranlé que les bûcherons voisins approchèrent de la hutte abandonnée. Ils firent main basse sur tous objets et notamment sur le trésor enfermé dans le coffre. Et le lieu étant vidé, l'un d'eux mit le feu à la toiture. Il croyait bien agir. Et s'étant éloignés, ils regardèrent flamber la cabane de Gilles, le bûcheron. Mais ils virent aussi surgir, alors d'on ne sait quel lieu, et l'on lui dit que c'était des cendres, le chat du logis, Minou, qui se mit à s'élancer dans les airs, le dos arqué et la queue ramassée sous le ventre, à retomber sur ses quatre pattes, à rebondir comme un ballon, à grimper au tronc des arbres voisins en les écorchant de ses griffes, puis à se laisser choir par culbutes vertigineuses, son corps écartelé tout à coup et semblant fixé par quatre épingles comme une chauve-souris, puis touchant le sol, pour se livrer sur les débris calcinés de la demeure, à une danse sauvage et terrifiante, et qui n'avait d'égal en horreur que les haltes soudaines de l'animal au gros dos, aux prunelles jaunes, étincelant dans la nuit qui tombe. Tous s'enfuirent, assurés que si l'on avait délivré la forêt d'un couple pernicieux, le diable, lui, du moins, demeurait sain et sauf.